5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Oui.
Milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins à l'heure d'été, suite de notre série d'été Vivre en ville, après Kaboul, la ville encerclée, Conakry, la ville où l'on s'arrange. Aujourd'hui, vivre dans une ville éprise de liberté, Naples en Italie. Bonjour Jean-Noël Schifano.
Bonjour.
Vous êtes écrivain franco-italien, vous avez
entre
Franco-sicilien. Franco-sicilien.
Franco-napolitano-sicilien.
Vous avez entre autres publié le Dictionnaire amoureux de Naples. Pourquoi une ville éprise de liberté? C'est vous qui avez choisi le titre de l'émission aujourd'hui.
Parce que la liberté pour les Napolitains, c'est le bien le plus précieux. Et qu'ils l'ont démontré tout au long de leur histoire. Ils ne supportent pas ni les ghettos, il n'y a jamais eu de ghetto à Naples, ni les inquisitions, l'inquisition venue par trois fois en trois siècles, en deux siècles, pour entrer dans Naples, a été chassée par tout le peuple napolitain, mais par les nobles aussi, par un cardinal aussi. On ne supporte pas ce qui contraint à Naples. C'est le lieu tolérant au maximum. Et si vous voulez, je le qualifierais carrément comme capitale mondiale de la tolérance.
Naples, ville éprise de liberté, et évidemment le revers de la médaille, c'est son bordel ambiant, le linge qui sèche aux fenêtres.
Oui, Mussolini ne voulait pas le linge aux fenêtres.
Son patrimoine historique, bien sûr, on va en parler avec vous, Jean-Noël Schifano, ses réseaux mafieux, une véritable ouverture tolérante, vous le disiez, sur le monde, la Camorra, et puis les migrations. Naples serait l'une des dernières grandes villes d'Europe encore profondément populaire. Dans le centre-ville, ces palais des Cathis sont encore épargnés par l'embourgeoisement, les spéculations immobilières, des rénovations, mais pour combien de temps? Pauvreté, promiscuité, solidarité. Vous allez découvrir avec notre invité Jean-Noël Schifano la vie à Naples, la ville éprise de liberté, avec un programme musical 100% napoletano.
Perché mi sento street, cinta la remanga pasto beat. No, amore non si fa, ma che sono sti tante le stai con questa ma voce a me ca. Mi sento street, per ci resi chi bellerà wind. No, amore ma che re, ma che sono sti tante le stai con questa ma voce a me.
Un chanteur napolitain qui chante Into Street en dialecte napolitain. Vous m'avez repris d'ailleurs, Jean-Noël, vous me dites non, on ne dit pas dialecte.
C'est une langue.
C'est une langue qui est... Mais les Italiens disent dialetto.
Les Italiens, c'est autre chose. Vous savez, Naples, c'est la capitale, la seule ville capitale en Italie en fin de compte, puisque Rome est la capitale de l'État du Vatican. C'est autre chose. Et que les autres villes, par exemple en 1860, au moment de la prétendue unité italienne, Naples avait toutes les industries, la plus grande réserve d'or, la bourse. Tout était coté à la bourse de Naples. Il n'y en avait pas du tout ailleurs en Italie. Même la mozzarella a été cotée. On l'appelait l'or blanc. Et les premiers trains, les premiers bateaux à vapeur, les premières lignes, tout ce qui est, les premières observations du ciel, de la terre, Eugène Dorn venait étudier, etc. L'Allemagne, l'Europe entière venait étudier à Naples et voyait ce qui se développait. Le roi de Naples parlait napolitain. Et les cours d'Europe parlaient napolitain quand ils rencontraient le roi de Naples. C'est-à-dire on avait des ambassadeurs jusqu'en 1860 et cette prétendue unité, qui est une vraie désunité et catastrophe, qu'on subit encore maintenant, les ambassadeurs de Naples parlaient napolitain. Et naturellement, quand on veut diminuer, on dit « Regardez ce roi, il parlait que le dialecte. Ouais. » Non, il parlait une langue européenne.
Cette langue napolitaine, est-ce qu'on l'entend encore aujourd'hui
dans
la ville ?
Bien sûr, on l'entend partout. On l'entend maintenant
chez les commerçants
plus que jamais. Ben oui, mais un commerçant vous voyant arriver va pas vous parler en napolitain. Hein, il va essayer de vous parler un peu en français. Il voit tout de suite que vous êtes française. Et puis en italien, bien sûr. Mais l'italien est une langue standardisée. Hein, c'est vraiment une langue qui doit passer dans l'Arnaud, mais pas que pour le sud de l'Italie. Hein, pour Italo Svevo, par exemple, n'a pas été accepté par son roman tout ce qu'il a écrit parce qu'il y avait des influences triestines, de langue triestine, dans ses romans. Mais on doit laver dans l'Arnaud, c'est-à-dire le fleuve de Florence, tout ce qu'on écrit si on veut être considéré comme de bons Italiens.
Alors, revenons à l'urbanisme de Naples, autrefois appelé Parthénope avant Jésus-Christ, puis Néapolis, puis Napoli.
Toujours Parthénope, hein. Attendez, avant Jésus-Christ. Oui.
Non, mais parce que la ville est bâtie sur des fondations de l'Antiquité.
Oui, oui, oui.
Comment se découpe la ville ? Comment s'organisent les quartiers par rapport à son histoire et aujourd'hui ?
Je vais tout vous dire. Naples, c'est deux grands saints bleus. D'un côté, c'est pas une baie seule, mais vous avez une avancée, une échancrure, si vous voulez, qui est le château de l'Œuf, qui a les pieds dans la mer. Et vous avez, c'est l'emplacement le plus ancien de Naples, c'est-à-dire 800-900 ans avant Jésus-Christ, et avant notre ère. Et tout autour, vous avez d'un côté, au levant, vous avez le Vésuve, et derrière le Posilipe, au couchant, vous avez un autre volcan, la Solfatare, qui bout, comme une grosse béchamel. Et donc, vous avez une situation qui est en forme quasiment d'oiseau, avec le bec dans l'eau. Hein, on a l'impression que Naples, et puis Naples est étagée comme ça, comme un immense double amphithéâtre sur la mer. Elle accueille beaucoup. Alors, en face, il y a Capri, qui va. Et puis, de chaque côté, vous avez les îles. Enfin, vous avez les îles du côté droit, du côté droit, vous avez Ischia et Procida. Et donc, vous avez cet accueil, cette ouverture sur la mer, et vous avez Naples et Janus, à deux visages. Le visage tourné vers l'Europe, hein, le grand Naples se passe de l'Italie, Naples c'est historiquement Naples-Paris, Naples-Londres, Naples-Vienne, Naples-Saint-Pétersbourg, et de l'autre côté, vous avez l'ouverture sur la Méditerranée. Donc vous avez ces deux influences qui sont au cœur de Naples et qui en font une immense capitale où toutes les civilisations européennes se sont stratifiées depuis la fondation grecque, hein, Palaiopolis, l'ancienne ville, Néapolis, la nouvelle, jusqu'à nos jours.
Aujourd'hui, on a combien d'habitants ? On parle
vous avez une agglomération de 4 millions d'habitants.
Ouais. Et hors banlieue ?
Vous avez 2 millions et quelques. Hors banlieue, mais c'est une agglomération.
Hein. On est bien d'accord.
Vous en avez plus d'un million sous le Vésuve. Hein. Donc, et puis, vous avez une densité, surtout, de 40 000 habitants dans le centre historique, qui est une Pompéi qui n'a pas été recouverte de cendres.
40 000
habitants, 21 000 à Paris. C'est-à-dire à Paris, vous avez la moitié de densité de Naples. Et c'est la ville la plus jeune d'Europe, et c'est la ville où on se suicide le moins en Europe.
Même si le taux de natalité s'est effondré dans le sud de l'Italie,
ah oui,
encore davantage par rapport au nord. Mais
on
est d'accord.
Tout le sud.
Non, non, mais d'accord. Mais dans ce Naples très densément peuplé, qu'est-ce que ça implique finalement, cette promiscuité
J'aime pas le mot promiscuité. Il y a un grand respect, il y a un grand passage du basso, c'est-à-dire l'habitation qui est en dessous de la rue, hein, où il y a théoriquement les plus pauvres. Et puis,
donc très mal éclairé.
Et puis, ils sont très mal éclairés, ça dépend comment ils s'éclairent. Et puis, vous savez que la lave qui est une lave grise noire, la nuit, elle est lumineuse. Et puis vous avez le palazzo, le basso et le palazzo. Mais vous avez au cours des siècles, au cours des années, un passage des habitants du basso au palazzo, etc. C'est-à-dire que vous n'avez pas une société qui est figée ou dans la pauvreté ou dans la richesse, mais vous avez un passage de la pauvreté à la richesse.
C'est-à-dire au fur et à mesure que des familles sortent de la pauvreté.
C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, les familles pauvres, parce que leurs héritiers, etc., ne restent pas dans la pauvreté, mais bondissent et font des sauts vers la bourgeoisie, etc.
Alors aujourd'hui, un Napolitain gagne en moyenne 14 000 euros par an. C'est plus du double dans le nord de l'Italie.
C'est pas étonnant.
La banlieue nord de Naples, puisqu'on parlait vraiment de métropole, maintenant a le taux d'illettrisme le plus élevé du sud de l'Italie. On a 20% des enfants qui sèchent l'école pour travailler, pour venir en aide à leur famille. On a ces fameux logements sociaux, les VL, dans la banlieue de Naples.
C'était fait par un maire communiste qui voulait se débarrasser Naples de la mauvaise vie.
Ce sont des barres d'immeubles qui sont construites en forme de voile de bateau. Hein.
Il y en a une que Antonio Bassolino, le maire qui a précédé, a fait sauter, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, parce que tous les pétards étaient mouillés. Ce sont des lieux qui sont donnés depuis 1860 et des mentalités à la Camorra. Donc, c'est pas étonnant. Les jeunes deviennent des petits camorristes et puis ensuite des grands camorristes.
Et c'est dans cette banlieue nord, d'ailleurs, que Roberto Saviano a écrit
son enquête. Il ferait mieux de faire un peu d'histoire sans vivre et développer, parce que ces films tirés de ce qu'il écrit, ces scénarios, développent la Camorra, c'est-à-dire développent les enfants, admirent la façon dont on tue, la façon dont on arrive à avoir de la richesse, la façon dont on domine les autres, admirent ces films. Et d'ailleurs, le livre déjà, Gomorra, puisque vous me mettez sur Saviano, le livre Gomorra était un livre adoré par les camorristes, les grands camorristes. On le trouvait dans leur...
Parce qu'on relate les faits d'armes.
Oui, on relate, exactement.
Alors, il y a beaucoup de cerveaux à Naples, hein, puisque vous le citiez, vous en parliez, de cette université napolitaine Federico II et Federico II, qui est une des plus vieilles universités.
La plus ancienne université d'Europe.
Avant la Sorbonne.
Avant Bologne, etc.
13e siècle, qui fournit en réalité depuis quelques années la fuite des cerveaux, puisque c'est une ville qu'on a toujours quittée, Naples. Hein, on a quitté le sud de l'Italie pour trouver de la main-d'œuvre, pour trouver de l'emploi.
Attendez, avant 1860, non seulement on ne quittait pas Naples, mais on venait à Naples. Tout le monde venait à Naples.
Pour revenir au 20e siècle.
Non, c'est le 20e siècle, parce qu'on a édicté une loi en 1860. Les gens qui ont pris le pouvoir, les Savoies, ont dicté une loi qui est... Il est interdit à Naples et au sud d'entreprendre. Et on a monté toute la richesse, les réserves d'or, etc., au nord. Avant 1860, il n'y a pas un Napolitain ou un Sicilien qui s'exilait. C'était toute la bande du Nord qui s'exilait.
En tout cas, ensuite, il y a eu donc cette main-d'œuvre qui s'est exilée pour trouver du travail. Et puis ensuite, depuis quelques années, des cerveaux, c'est-à-dire des Napolitains diplômés. Ces 5 dernières années, on a 200 000 diplômés de l'université qui ont émigré. Donc, ça remplace cette fuite des cerveaux.
Merci l'Italie. Merci le gouvernement italien. Oui, je veux dire que si on veut chercher comment est gouvernée l'Italie en ce moment, eh bien, il faut chercher du côté de la Camorra, de la mafia, l'Andrangheta, de la Sacra Corona Unita, c'est-à-dire les 4 organisations criminelles du sud de l'Italie. Et on voit que tous les gens qui sont élus au Parlement italien le sont grâce aux voix rassemblées. Et exactement comme le ministre de l'Intérieur actuel, qui vient du Nord et des racistes de la Ligue, eh bien, il a été élu en Sicile par les voix de la mafia.
Alors on va y revenir aux opinions politiques des Napolitains. C'est une ville, vous nous le dites depuis le début parce que c'est votre passion, Naples, c'est une ville pauvre, généreuse, que l'on quitte mais qui accueille aussi.
Mon père et ma mère se sont connus dans la galère. Comme un guitage, ils m'ont laissé dans la misère.
ed ecco mio padre con mia madre che hanno cominciato a maledire la geometria di questo mondo che non è esattamente tondo, perché è un mondo fatto a scale e c'è chi scende e c'è chi sale, perché è una giostra che gira sempre e c'è chi sale e c'è chi scende, e chi è baciato dalla fortuna, chi non gliene va bene una, perché la scala da scalare non è per tutti uguale.
Mon père, ma me, se sono cognuto la tale, come vita ci molesse, molesse dalla mise. Mon père, ma me, vuoi fare la vita, moi j'espère, come vita ci molesse.
Son pas small et son pas kid.
Si può vivere senza mare, ma si può vivere senza padrone, e da mio padre, da mia madre, che ho imparato questa canzone. C'è chi è libero di viaggiare, e chi se viaggia è irregolare, con la sua carta d'identità, di Camerun, di Senegal, perché nel mondo fatto a scale c'è il superfluo, c'è l'essenziale, c'è il nord-ovest che comanda, e c'è il sud che canta.
Mon père, ma mère, se sono cognuto la galère, come vita ci molesse, molesse dalla misère. Mon père, ma mère, pour faire la vie.
Eugenio Bennato, chez 7 milliards de voisins, série d'été, Vivre dans une ville, Éprise de liberté, Naples, racontée par Jean-Noël Schifano, et vous signez une partie du programme musical. Pourquoi Mon père et ma mère ?
Mon père et ma mère.
Juste une ritournelle en français, c'est... le reste est chanté.
Oui, en napolitain. C'est-à-dire que c'est le mélange des langues et l'accueil de toutes les langues, l'accueil, il y a des Camerounais, il y a des, etc. L'accueil du monde entier à Naples. Il y a tellement pas aucune xénophobie à Naples, que tout étranger est bienvenu et l'étranger apporte quelque chose. C'est les bras ouverts. Donc il fait voir ça, bon, malgré la misère, malgré... Et il chante, on va se retrouver tous ensemble et on danse et on va inventer notre existence. Parce qu'il y a 500 000 Napolitains qui chaque matin doivent inventer leur existence, savoir ce qu'ils vont mettre dans leur casserole le soir. Donc c'est une...
Ce qui n'empêche pas le maire de Naples, d'ailleurs, Luigi De Magistris, qui dit en permanence qu'il est prêt à, contrairement au gouvernement et au nouveau ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, lui, il dit qu'il est prêt à accueillir des navires de migrants.
Non seulement ça, mais quand...
Bien que la ville soit pauvre.
Il y a eu des épisodes désastreux du côté de Florence, où... un noir a été tué, des persécutions, etc., racistes, vraiment, toute la communauté noire vient manifester à Naples et le maire donne le balcon de la mairie pour afficher cette revendication. Mmh. Nous sommes tous... Il y avait un grand bandeau. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des humains.
Et surtout, ouais. Il dit Naples est prête sans argent à sauver des vies.
Évidemment, évidemment. Donc Naples a toujours été ouverte, contrairement à Rome qui est complètement fermée. Vous avez vu un migrant au Vatican, dans l'état du Vatican, il est interdit par la loi du Vatican d'accueillir un migrant, même la moitié d'un. Vous voyez, donc il y a des civilisations qui sont différentes. Naples est une grande civilisation.
Oui. Alors ceci dit, Naples et sa région, avec son agriculture, avec les usines de confection, textiles, chaussures, tout ça, est aussi un carrefour de l'immigration illégale et profite aux entrepreneurs. Néanmoins, il faut aussi le dire.
Hein. Oui, enfin, il profite. Si vous me parlez de certaines régions où débarquent ces malheureux en Sicile, peut-être à Naples. Bien sûr, mais vous savez, il y a les Chinois qui en profitent beaucoup aussi. Hein, ils ne sont pas invisibles, parce que tout ce qui est contrefaçon arrive dans le port de Naples par tonnes, centaines de milliers de tonnes. Et là, ce sont les Chinois, qui d'ailleurs occupent aussi les trois quarts de l'Afrique. Donc il faut mesurer tous ces mouvements. Il faut voir quel est le degré d'humanité, d'accueil, de présence auprès des étrangers qui deviennent napolitains. Parce qu'après, maintenant, on voit... J'ai connu Naples dans les années, bien avant, mais dans les années 70, Air France avait supprimé tous les vols pour Naples, non pas à cause de la Camorra ou d'attentats, mais parce qu'il n'y avait pas un touriste qui allait à Naples. Mmh. Actuellement, Air France, si vous prenez vos billets 5 mois à l'avance, vous avez de la chance d'avoir une place.
Oui, mais
les avions sont remplis. Attendez, mais le fait est que si Naples était tellement extraordinairement endéré, on n'aurait pas des touristes qui arrivent par dizaines de milliers tous les jours dans la ville de Naples, qui font des queues, mais c'est pas possible, pour voir la chapelle de San Severo et le Christ voilé, mais d'heures et d'heures, des queues qui contournent des immeubles, tellement il y a de monde. Alors ce monde-là qui vient et qui adore Naples, vous croyez que c'est un monde qui va en enfer ?
C'est un monde qui n'a pas écouté une famille romaine. Je me souviens d'une famille romaine qui me disait toujours « Non andare a Napoli, tutti ladri ». Donc
oui,
comme
oui,
quoi on
oui,
est toujours le misérable de quelqu'un.
Le grand truc, je veux dire, mais tous les voleurs se trouvent à Milan et à Turin.
On va donner la parole à un Français qui vit à Naples. Bonjour Sylvain Bélanger.
Sylvain,
bonjour, vous êtes directeur général du musée.
Oui.
On vous entend très bien, vous êtes en direct sur RFI chez 7 milliards de voisins. Oui. Et vous êtes directeur général du musée du Parc Royal de Capodimonte, qui est un grand musée à Naples. Vous êtes le seul Français d'ailleurs à la tête d'un musée d'État italien. Vous avez entendu en partie ce qu'a dit Jean-Noël Schifano sur cette ville qui célèbre son passé en permanence. Aujourd'hui, vous, en tant que Français installé à Naples, est-ce que vous diriez que Naples est aussi une ville qui est prisonnière de ce passé, qui a du mal à se tourner vers le monde contemporain ?
Oui, écoutez, ce n'est pas une réponse qui peut être donnée noir ou blanc. Le musée d'art contemporain de Naples, le Madre, est un des plus beaux et des plus intelligents musées d'art contemporain en Europe. Il n'est pas tellement visité. Il n'est pas tellement visité par les Napolitains en particulier. Il est très soutenu par une partie de la population napolitaine. Et il ne faut pas oublier que, parlant d'art contemporain, Naples est la ville de l'art contemporain en Italie. Depuis Lucio Amelio et la fameuse galerie Lucio Amelio, l'exposition Telemotus de 1984, qui est venue au Grand Palais, qui est maintenant présentée à Caserte, toutes les grandes galeries italiennes ont un siège à Naples. Je pense à Liarumi, à Araccio, à Trisorio, qui sont des galeries extrêmement sérieuses et internationales. Ça ne veut pas dire que Naples ne soit pas prisonnier de son passé, mais toutes les vieilles civilisations sont un peu prisonnières de leur passé. Et probablement, Naples a aussi un certain talent de célébrer pour ne pas faire, célébrer ce qui pourrait être fait, célébrer un passé. Donc il est difficile de dire à quel point il est imaginaire ou pas imaginaire. Est-ce que la Naples des Bourbons était ce paradis dont certains bourboniens parlent, ou est-ce que la Naples a été a commencé sa décadence avec l'unité italienne? Tout ça est un peu compliqué à dire.
Comment vous pourriez, vous qui vivez à Naples à l'heure actuelle, comment vous pourriez définir aujourd'hui les relations sociales dans cette ville si compliquée ?
Écoutez, la première chose, c'est que Naples est un grand port. Les ports, et puis la forme même géographique de la baie de Naples est à la forme de l'accueil. Naples est probablement la capitale de l'accueil. L'étranger à Naples n'est pas un étranger. La ville est non seulement francophile, elle est estérophile, d'une manière générale. L'étranger est un voisin de palier à Naples depuis les Grecs. Et c'est encore comme cela aujourd'hui. À aucun moment, moi qui suis le seul Français à exercer une direction dans une institution italienne, à aucun moment, personne ne m'a jamais dit que fait un Français à la direction d'un des plus grands musées d'Italie. Au contraire, c'est souvent, il fallait un Français pour arriver à faire cela. Ne partez pas, restez, on vous veut. C'est plutôt ce discours-là. Quelle est la relation sociale à Naples ? C'est une société complexe, c'est une société de classe très forte. Apparemment, il y a une socialité très fluide. En fait, cette fluidité est aussi possible parce qu'elle repose sur un système de classe extrêmement fort. On est d'un milieu où on ne l'est pas, à Naples. C'est une société qui obéit encore aux schémas sociaux des années 60-70.
Ce qui n'empêche pas le don, l'échange, la solidarité, le service.
Alors ça, c'est un des aspects particuliers du monde méditerranéen qui est resté particulièrement vivant à Naples, qui est le don. Le cadeau est une chose quotidienne. Quand je suis arrivé à Naples, j'avais un cadeau du staff sur mon bureau, une énorme boîte de chocolat, Benvenuto de Direttore, il tuo staff. J'ai raconté à une de vos collaboratrices que j'avais commis l'erreur le premier Noël passé à Naples, où le directeur reçoit des cadeaux de toutes les entreprises, de toutes les associations, de tous les groupes qui tournent autour du musée.
Oui, des cadeaux alimentaires, d'ailleurs, souvent.
Des confitures, des pâtes, etc. Et j'avais commis l'erreur de les distribuer dans le personnel, avec une vision un peu anglo-saxonne. Et ça n'a pas été bien vu ni par les généraux de la Terre, ni par le personnel, qui considérait que c'était pas respectueux.
Ouais. Un dernier mot...
Il y a cette réalité.
Un dernier mot, Sylvain Bélanger, oui. Puisque vous dirigez ce musée Capodimonte. Quel accès à la culture pour les enfants de Naples? On a expliqué que la ville était pauvre, avec d'ailleurs des problèmes d'accès tout court à la scolarité. Comment un grand musée comme celui que vous dirigez peut permettre aux jeunes générations d'avoir accès à la culture, tout simplement?
Écoutez, je vais être très sévère. L'Italie a sacrifié 3 générations. Il n'y a pas de concours qui ont été organisés pendant 25 ans. Toutes les structures d'État, qu'elles soient de la justice, les hôpitaux ou la culture, souffrent de la carence des jeunes. Ils ne sont pas là et les départs en retraite se célèbrent chaque jour. Les carences de personnel, moi je suis à 60% sous organigramme du simple fait qu'on n'a pas fait rentrer les jeunes. Et quand on les a fait rentrer, on les a fait rentrer dans des postes subalternes. Et ouais. Pourtant, ceux qui ont pu survivre dans le système extrêmement complexe et désorganisé de l'université sont brillants, très brillants. En particulier, les générations qui sont nées après l'ordinateur ont une relation avec le monde contemporain beaucoup plus vive, beaucoup plus réelle, beaucoup plus actuelle que la génération de leurs parents ou de leurs grands-parents. L'Italie, en particulier le sud de l'Italie, ne fait rien pour les jeunes. J'ai dû créer un terrain de football dans le grand parc de Capodimonte pour pouvoir permettre aux jeunes de la Sanità, de Milano et du quartier de Capodimonte, qui sont des quartiers
populaires,
pauvres, pour avoir un espace pour des quartiers populaires, mais pauvres même. Hein,
oui.
Avec des vrais problèmes économiques et tout ce qui va avec la misère, c'est-à-dire la délinquance, la drogue, la camorra et tout cela. Ces quartiers, cependant, vivent une vraie renaissance et il y a une transformation notable dans ces quartiers.
Et le foot fait bon ménage avec la culture, en tout cas dans votre esprit. Merci beaucoup Sylvain Bélanger. On va se quitter là parce que je voudrais que Jean-Noël Schifano puisse réagir. Merci d'avoir été en ligne en tout cas avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général du musée du Parc Royal de Capodimonte, un musée que vous connaissez bien, Jean-Noël Schifano.
Oui.
Sur les relations sociales, est-ce que vous voulez compléter puisque vous avez longtemps dirigé l'Institut français de Naples.
Oui, bon, c'est très bien. Je crois que Sylvain Bélanger a oublié une anecdote qu'il aime beaucoup. C'est l'anecdote de Picasso et Cocteau. Picasso, ils sont tous les deux à Rome et Cocteau fait un saut à Naples. Et Picasso téléphone à Cocteau, il dit reviens à Rome, il y a le pape quand même. Et Cocteau lui répond, oui mais à Naples il y a Dieu. Mais je crois que si Cocteau, attendez je complète, si Cocteau avait connu Naples, il n'aurait pas dit Dieu, il aurait dit à Naples, il y a Saint-Janvier, il y a Saint-Gennaro. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est-à-dire un saint laïc qui attire à lui des foules entières et des foules du monde entier. C'est pas un saint qui appartient à un individu, c'est un saint qui appartient à toute la ville, qui appartient à tous les Napolitains dans le monde. Et la liquéfaction du sang indique un lien de sang et de sensibilité et de culture entre le cœur de la ville, le cœur battant de la ville et le monde entier.
Et, vous avez cet accueil. Et il y a aussi à Naples les crèches de Noël dans votre dictionnaire amoureux de Naples. Vous racontez qu'elles peuvent faire plusieurs dizaines de mètres de
bien
long,
sûr.
Qu'on peut même y trouver des jambons.
L'ancien, oui, oui, non, mais non seulement ça, mais on y trouve, on asperge le côté vigneron, le côté vigne, on l'asperge de vin pour qu'il ait l'odeur du vin. Et vous savez, l'ancien président de la République, Sergio Leone, qui était napolitain, dans sa villa romaine, il abattait les parois pour agrandir sa crèche. Et alors, ce qui est très beau, je vais vous dire un truc pour découvrir Naples très vite et d'une façon très précise. Vous allez dans le musée de San Martino au sommet, qui domine la ville, et vous voyez les crèches. Vous voyez ces personnages de 10 cm, de 30 cm
en céramique.
De haut, dont certains sont faits par San Martino, c'est-à-dire celui qui a fait le Christ voilé, et d'autres bottilières, et etc., des grands artistes. Et vous descendez, vous reconnaissez exactement les mêmes personnes dans les marchés. C'est-à-dire que la crèche est un portrait vivant de la ville.
Avec les mêmes visages. Mmh. Une question d'un auditeur. Vous êtes d'accord pour répondre à une question d'auditeur ?
Ah, mais absolument.
Postée sur Instagram, une question d'Onirique. Pourquoi y a-t-il tant de feux d'artifice au Nouvel An ? Extrait de Écoutez Naples de
oui.
Monica Fantini.
Et donc même des feux d'artifice et des pétards énormes sautaient jusqu'à un certain temps sur le parvis de la cathédrale quand le sang de Saint-Janvier s'était liquéfié. C'est une façon de non seulement fêter, mais de rivaliser avec le Vésuve. C'est-à-dire que le Vésuve, c'est à la fois un totem et un danger. Et en offrant au Vésuve, tous les Napolitains offrent au Vésuve cette explosion vésuvienne à l'intérieur de la ville, comme pour chasser des coulées de lave éventuelles. Donc, chétate, la crise chétate, c'est-à-dire réveillez-vous, réveillez-vous.
En napolitain.
En napolitain. Venez, venez, la pizza.
Ça se svegliate en langue italienne.
Ouais, voilà. Vous la mangez maintenant et vous la payez dans 8 jours. Et il y a actuellement à Naples aussi
extrait
la possibilité.
Extrait de l'Oro di Napoli, hein, ouais. de Vittorio De Sica. Donc, c'est sous forme de.
De plusieurs petits films qui décrivent Naples. Et à un moment donné.
Et là, c'est les pizzas à crédit.
Ça, c'est les pizzas à crédit. Et si vous voulez, vous avez. C'était juste après la guerre, hein, donc pizza à crédit. Mais quand Naples va mal, il y a non seulement le café suspendu, c'est-à-dire on n'humilie personne quand vous allez boire votre café le matin.
Encore aujourd'hui
vous, oui. Vous en payez 3, mettons, vous en buvez 2, et il y en a un qui est suspendu. Et tout d'un coup, il y a un type qui, dans la journée, entre et dit « Non c'è un café per me, il n'y a pas un café pour moi ». Il dit « Si, si, prego, prego ». Et on lui donne son café. Il boit comme tout le monde son café. Il dit merci. Vous voyez, c'est pas de l'humiliation ça. Parce que le type qui a pas de sous, il vient boire son café. Il dit, il n'y a pas un café pour moi. On lui réserve. Donc au lieu d'être humilié, ça devient quelqu'un d'important.
On n'a pas encore parlé de la pizza, Jean-Noël Schifano, pour cette ville éprise de liberté, Naples, que vous nous racontez depuis le début de l'émission, chez 7 milliards de voisins. Qu'est-ce qu'une... La pizza, il y a quelques mois, a été classée par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. Qu'est-ce qu'une vraie pizza napolitaine ?
Écoutez, c'est simple, c'est du pain, c'est de la pâte, c'est de la farine, farine de premier choix, une pâte qui doit reposer une nuit. C'est-à-dire le trottoir de la pizza, de la vraie pizza, est aérien. C'est-à-dire qu'il est rempli de, plus qu'un gruyère, hein, de trous. Et l'intérieur, c'est, la base, c'est la tomate, pomodoro, la pomme d'or, et la mozzarella. Et alors, il faut regarder qu'à un moment donné, pour désidentifier même la nourriture, On a dit que la pizza Margherita, c'était le nom de la reine Margherita de Savoie. Eh bien non, c'est la pizza qui a la forme d'une marguerite. C'est-à-dire, vous avez les pétales blancs et vous avez la feuille, la feuille de basilic qui est à côté. Et puis, autre chose, c'est que la pizza, c'est aussi la forme de vie intérieure, d'une forme de développement de l'existence. Vous avez le sang et le sperme sur la nourriture. Et vous avez une image de la fécondation de la vie. C'est extraordinaire, une pizza. C'est extraordinaire.
C'est la métaphore. Et, la Jean-Noël Schifano de la pizza.
Oui, je sais. Mais allez la manger dans la Via dei Tribunali et chez Sorbillo. Ouais. Qui alors, elle est extraordinaire.
Il faut préciser aussi
mais
que c'est,
dans tout Naples,
c'est dans la même ville qu'on importe de Chine, vous l'avez dit, par le port de Naples, le pire concentré de tomates qui vient de Chine.
Ah oui, mais c'est pas celui qu'on met.
Pour le délayer avec de l'eau, le revendre sous forme de coulis de tomates de mauvaise qualité, peut-être pas celui qu'on trouve sur les pizzas à Naples, mais en tout cas, le coulis de tomates qui est exporté ensuite dans toute l'Europe.
Bah, j'en sais
où
rien, mais vous savez...
Il y a écrit Made in Italy, et en fait,
ah, oui,
c'est
made
du concentré
in Italy,
chinois,
sans aucun doute, mais c'est pas Made in Naples. Hein, excusez-moi, le Made in Italy peut être empoisonné,
vous défendez Naples envers et contre
mais
tout.
Mais pas donc. Le Made in Naples.
Allez, on écoute un rappeur de Naples, tout de suite.
Appiccio il microfono e faccio ma fa zero. Vendo erba Gandhi, vendo coca sgarbi, ho i minuti contati, su Rolex rubati, tu al collo a due collane, io al collo le sue gambe, il linguaggio del corpo è la sua lingua madre, delle mie ex amico, il motivo non lo dico, ma è perché non pago le modelle nei miei video, il successo ti ha strizzato come una spremuta, e il succo del discorso è che sia la frutta, ok Masterchef questa rivoltella, ti faccio saltare il cervello in padella, uso parole che la polizia non afferra, sto così in alto coi piedi per terra, la tua testa lo stemma della mia Benz, il mio cazzo rovina la festa, ormai è grande, ragiona con la sua testa, furia il cavallo del West quando si tratta di correre appresso a sti soldi, Luca you simply the best disse la maestra d'inglese dopo 5 colpi, haters organizzati fanno un corteo, li guardo scannarsi come al Colosseo, credo che avranno bisogno di un break, sì. Le chiedo prima il numero e poi il nome, sì. Ci sono troppe storie sul mio nome, se la polizia ti chiede qual è il nome, sì, sì, sì. Ricordati di non fare il mio nome, non fare il mio nome, no, non fare il mio nome, non fare il mio nome, no, non fare il mio nome, se parli di sti rapper stra, non fare il mio nome, non fare il mio nome, no.
Il mio nome è Luce, un rappeur de Naples. On est resté depuis le début de l'émission, Jean-Noël Schifano, parce que vous adorez Naples, vous n'aimez pas qu'on parle de la Camorra, la mafia
napolitaine. Non, mais non, j'en parle dans mes derniers livres, dans le coq de Renato Cacciopoli.
Est-ce que le commerce de la drogue est affaibli depuis quelques années ou pas ?
Vous savez, j'ai pas été... Je sais une chose, c'est qu'on connaît tout de la Camorra. On connaît tout dans les journaux, le matin, au journal de Naples, etc.
Que vous lisez tous les jours.
Que je lis régulièrement, oui, oui, bien sûr. Et parfois dans la Repubblica, supplément napolitain, vous avez le nom des familles, de toutes les familles qui occupent les quartiers de Naples, leurs liens, leurs haines, leurs meurtres, etc. On sait tout de la Camorra. La Camorra a été créée au XVIIe siècle, avec les premiers vicerois, fin XVIe, avec les premiers vicerois, c'est une sorte de fou de cour qui s'appelait Camilluto Zanuto, petit Camille ou grande dent, qui a fondé la Camorra en appliquant les règles de la Société de Jésus. C'est, par exemple, un jeune camorriste doit être entre les mains de son supérieur, perinde a cadaver, comme un cadavre, obéir comme un cadavre, etc. Donc c'était, à partir de cette époque, c'était défendre le pauvre, prendre de l'argent aux riches, en distribuer, s'enrichir comme ça, protéger et en contrepartie entrer dans la société, l'honorable société, on l'appelait comme ça, comme les députés en Italie, les onorevoli, honorable société. Et puis, jusqu'en 1860, c'était comme ça. c'était quasi, c'était pas du folklore, c'était pas, mais c'était artisanal, disons. Après 1860, quand Garibaldi et les Savoies ont mis un des grands chefs de la Camorra comme chef de la police à Naples, et ça a été l'entrée, l'institutionnalisation de la Camorra dans l'État italien.
Voilà. Pour réaliser l'unité italienne ?
Eh bien, pour que Naples se tienne tranquille. Parce que Naples, quand Victor Emmanuel II est arrivé à Naples, il dit, mais comment on fait là ? Ils sont pas tranquilles, c'est un politain, comment on fait pour les dompter ? Il dit, ben, il y a une organisation qui est assez puissante, alors on peut mettre... c'est comme ça que la Camorra a été institutionnalisée. Si bien que, je reprends un mot de Leonardo Sciascia, hein, qui lui parlait de la mafia, mais on peut le dire aussi sur la Camorra, quand on lui demandait, mais alors, comment on peut faire le gouvernement italien pour éliminer la mafia, ou la Camorra, si vous voulez, pour moi, eh bien, Leonardo Sciascia répondait, il faut que le gouvernement italien se suicide.
Voilà.
Vous voyez, mais ce que je veux dire surtout, c'est que l'amour des Napolitains pour Naples est infini. Les Napolitains ne se veulent pas en exil. Ils préfèrent rester pauvres à Naples que s'enrichir ailleurs. Si bien que tous les mouvements que vous me donnez sont vrais, sont des mouvements qui sont suscités par le gouvernement italien, qui ne gouverne pas grand-chose, mais qui arrive à faire certaines choses, parce que c'est un gouvernement ectoplasmique à côté d'un État hyper puissant qu'est l'État du Vatican. Donc ça, c'est un autre discours
et
encore.
Et vous faites allusion, évidemment, aux coupes sombres dans les budgets de la ville de Naples, qui a énormément de mal à s'en sortir, notamment sur les budgets sociaux. On n'a pas parlé des déchets, du scandale des déchets toxiques.
C'est un scandale affreux.
Vous m'avez dit, oui, mais c'est pas dans Naples, c'est à 40 km.
Oui,
néanmoins,
c'est,
évidemment, c'est éclabousse la ville.
C'est un scandale affreux qui peut éclabousser la ville avec les poubelles.
Comme vous aimez bien dire que depuis l'unité italienne, c'est le Nord qui a colonisé, qui a affaibli
Absolument. Le
Sud, qui a affaibli Naples, qui était
toutes les richesses
si resplendissantes.
Ils ont tout piqué.
En l'occurrence, sur les déchets, c'est évidemment vrai, puisque ce sont les industries du nord de l'Italie qui se sont débarrassées
de
leurs déchets toxiques.
Mais pas rien que du nord de l'Italie.
En payant la Camorra du Sud
Bien
pour
sûr.
Enfouir les déchets toxiques, les métaux lourds, etc., dans la région
dans
de
le
Naples.
Nord, Naples oui.
que
dans
l'on
la
appelle
campagne, Félix.
Le triangle de la mort,
oui.
Où on a une explosion des cas de cancer.
La terre des feux aussi.
Oui.
On l'appelle la terre des feux.
En effet, puisqu'il y a eu ensuite cette loi sur la
plus.
Terre des feux maintenant pour interdire les enfouissements qui se sont donc largement ralentis depuis quelques années.
La terre des feux, c'est parce qu'on met le feu à toute cette merde, excusez-moi, ce qui empoisonne les poumons des gens qui sont autour, non seulement la terre, mais tous les gens qui sont autour. Alors ça ne se passe pas dans Naples, naturellement, ça se passe loin de Naples, mais ça touche la Campanie et ça touche l'arrière-monde de Naples qu'on
Comment
appelait
le vivent les Napolitains,
la campagne
ça
à Félix, c'est-à-dire ouais. la Campanie heureuse. Alors avec ça, elle est malheureuse, mais il y a des réactions partout. Les Napolitains s'organisent, il y a des mouvements contre la terre des feux. Il y a des mouvements pour supprimer ça, des dénonciations. Les Napolitains bougent, ils ont un esprit napolitain et civique extraordinaire. Ils veulent pas, quand un étranger passe dans Naples et qu'on lui pique son portefeuille, ça peut arriver, ça arrive dans le métro à Paris, ça arrive partout. Eh bien, alors que dans le métro à Paris, les gens vous regardent ou regardent comme ça en disant « Ah, il s'est fait avoir », etc. et s'en mêlent pas, à Naples, on est humilié par ce chippo. Et chippo vient de chipper en français. On est humilié par ce chippo et les Napolitains se sentent blessés parce que la ville de Naples n'est pas comme ça. Il peut y avoir, ça peut arriver comme partout ailleurs. Mais on a déversé tellement de médisance sur la ville depuis un siècle et demi qu'on met très longtemps pour se laver de ces médisances. En tout cas, on s'en lave en disant plus on est napolitain, plus on est universel.
Ti amo, credimi, ciao, ciao, vedrai che io ritornerò. L'hai voluto appena appena conosciuta, già sei stata insieme a te si innamorata. Pinta in aereo porta lui che parte e sai che è già finita. Era lui l'uomo dei sogni che
Maria Nazionale et Ciao Ciao, c'est une chanson qui vous tient à cœur, Jean-Noël
Stifano. Oui, Maria Nazionale aussi, c'est une
dernière question avant qu'on se quitte, Jean-Noël Stifano. Vous l'avez dit au début de l'émission, vous êtes sicilien par votre père. Mais alors donc, d'où vient cette...
Je suis des deux Siciles.
D'où vient cette passion quasi charnelle à la ville de Naples?
Eh bien, j'allais voir où mon père était né quand j'ai eu terminé mes études et même une année de service militaire dans l'aviation. Et je devais m'arrêter une nuit à Naples, j'y suis resté 10 ans. Mais j'y suis resté 10 ans parce que je ne comprenais rien.
Il y avait une femme dans l'histoire.
Non, je ne comprenais rien. Simplement, j'avais une éducation cartésienne, carrée. Je tombe dans une espèce de mouvement circulaire qui n'en finissait pas, de cris, etc. Et j'ai voulu savoir où j'étais. Au bout de 7 ans de vie continue, chair, pierre, livres, tout ce que vous pouvez rencontrer, hôpital, cimetière, voyage sur la mer, même souterrain pour voir des villes qui avaient été ensevelies dans la mer. Au bout de 7 ans, j'ai commencé à tirer le fil de l'écheveau napolitain et on pouvait me placer n'importe où à Naples, les yeux bandés. On me faisait tourner et je savais, avec les bruits, les odeurs, les parfums et le pavé sous mes semelles, je pouvais dire « je suis à tel endroit ». 7 ans, il m'a fallu.
Et Naples vous rend bien cette passion, puisque vous publiez le dictionnaire amoureux de Naples. Alors il est publié en français. Aux éditions Plon, et bientôt en italien.
Il va sortir cette année à Naples, traduit... il y a eu un crowdfunding, c'est un appel de fonds. Tous les Napolitains, les artistes, etc., 150 artistes, ont donné une œuvre vendue à 200 euros, même si l'œuvre valait en 2000 ou 20 000. Et les gens ont donné, depuis la mairie jusqu'aux gens dans la rue, pour que le dictionnaire amoureux de Naples, qui s'appellera Dizionario Appassionato di Napoli, soit leur miroir à eux aussi.
Vous êtes décidément napolitain. Jean-Noël Stifano, merci de nous avoir fait, cette passion, cette si longue histoire de Naples aussi, qui n'en finit pas de se réinventer. Vous avez publié aussi Le Coq de Renato Cacciopoli aux éditions Gallimard. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, à qui je dis un grand, grand bravo pour plusieurs années de collaboration, qui va nous quitter ponctuellement. Delphine de Dianou, Steven Elsley à la réalisation. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI. Demain, suite de notre série d'été. Vivre dans une ville innovante, c'est à vous de deviner. La première bonne réponse sur notre fil Facebook gagne un cadeau. Je vous donne un indice. La ville se situe...
Sous le Vésuve.
Non, aux États-Unis. À demain les voisins.